marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Nous vous présentons aujourd'hui François Mitterrand qui nous parle des livres de sa vie.
Là, les bibliothèques de François Mitterrand.
Le bouquin de la Pléiade.
Oui.
Un peu plus haut, j'ai l'édition originale des Mémoires d'Outre-Tombe.
Ah oui, et puis elle est très belle. Comme...
Oui, ben, et puis surtout, elle est complète.
Tout ce qu'il y a dans cette pièce, enfin, pour la plupart des livres qui s'y trouvent, proviennent d'une sorte de manie. Ce sont généralement des éditions originales. Donc elles ont été additionnées par mes recherches depuis 20 ans. Et proviennent, sauf quelques exceptions, évidemment, de ma propre recherche.
1975, c'est François Mitterrand qui a ouvert le bal des numéros politiques d'Apostrophe. Et les politologues ont adoré commenter ses performances. À les entendre, elle faisait entrer le monde de l'inspiration dans le monde politique et elle témoignait de la permanence de la symbolique lettrée dans la monarchie présidentielle française. Le souverain, tel que nous autres le rêvons, agirait dans la société de son temps, en gardant le lien avec celle des livres. 2018, la vente aux enchères de la bibliothèque de François Mitterrand va réactiver cette imagerie familière. C'est une bibliothèque de bibliophiles constituée à force d'achats ou de dons attentifs. François Mitterrand aimait accompagner chacun d'une petite fiche écrite à l'encre bleue de son stylo Waterman. Il faisait relier nombre d'entre eux, souvent par les soins de son épouse Danielle. Avec la reliure, cet acte de confiance, lui disait son ami Jean Dutour, le livre devient un objet qu'on aime et qu'on garde. Qu'on n'imagine pas cependant dessiner facilement un portrait en creux de Mitterrand par cette vente. Des volumes plus courants, mais beaucoup plus nombreux, ont été donnés en 1990 à la médiathèque de Nevers. Une autre bibliothèque de livres de poche, cette fois, couvrait les murs du bureau de Latché. Ses nombreuses photographies témoignaient de la simplicité des goûts du premier secrétaire du Parti Socialiste. Et puis, il y avait les livres lus ailleurs, avec Anne Pinjot qui formait une autre nébuleuse encore. La compartimentation, toujours. Une image avant de commencer l'inventaire de la des bibliothèques de François Mitterrand avec Marc Lambron. Dans l'avion qui le ramenait à Paris, le soir du second tour de 1988, le président lisait ostensiblement une histoire de la Restauration. C'est déjà étrange. Était-ce celle de Bézenval ou celle de Vaulabelle? Les interprétations divergent. Et aujourd'hui, où diable est ce livre? Peu importe au fond. François Mitterrand avait choisi de se faire photographier en sa compagnie alors que ses seconds s'agitaient dans la fièvre du succès. Le livre enseigne aux sages la tenue et la retenue. Comme le lui disait encore Jean Dutour, décidément, dans une dédicace, vous mériteriez de ne pas être un homme politique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Marc Lambron, bonjour.
Bonjour.
Tiens, vous mériteriez de ne pas être un académicien.
Qu'ai-je fait?
Beaucoup de livres, et des livres extrêmement divers. On parlera du dernier, c'est sûr, Michael Jackson. Je ne sais pas comment on va emboîter ça dans l'émission, mais une bibliothèque. Les livres qu'on rédige, ça témoigne, Marc Lambron, de l'ouverture du compas.
Oui, je crois que... Alors, ce qui est en vente ici, je dirais que c'est un segment du cerveau littéraire de François Mitterrand. Et comme vous l'avez dit, c'était un homme de compartiment. Ça correspond à les livres, environ 680, qui constituaient le lait dans la succession de son fils Gilbert, qui les met en vente. Et l'estimation de départ est de 500 000 euros pour l'ensemble de cette bibliothèque François Mitterrand.
Vous êtes parfait parce que vous êtes comme François Mitterrand lui-même qui mettait des petites fiches. C'était écrit en bleu.
Oui.
Il encadrait le prix d'achat.
C'est un bibliophile conséquent. C'est une sorte de bourgeois lamartinien des Charentes. Et en effet, pour chaque ouvrage, il y a une fiche manuscrite où apparaît le titre, l'année d'achat, le prix d'achat et le prix de la reliure et le relieur qui car beaucoup de ses livres sont très, très richement et très joliment reliés.
Alors, vous parliez de Lamartine, il est absent, comme les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand aussi, il y a un petit peu de Lamartine.
Il y a un petit peu de Lamartine.
Mais les Mémoires d'Outre-Tombe qui sont citées en 75 par lui-même ne sont pas dans cette
bande. On ne les voit pas là.
Non plus que les Rougon-Macquart.
Mais vous avez raison de dire qu'au fond, une bibliothèque, ça se définit autant par, par le plein que par les manques, par les absences. Et quand on regarde le catalogue, il y a deux choses, deux absences assez intéressantes. D'abord, c'est il y a très peu d'étrangers. Il y a quelques Hemingway, Styron, Margaret Mitchell, mais quasiment pas d'Américains, non plus que d'Italiens. Les lettres anglaises ne sont pas à l'honneur. Donc, le cosmopolitisme dans cette bibliothèque, en tout cas, n'était pas le fort de François Mitterrand.
Thomas Mann et Junger, cependant.
Thomas Mann et Junger. Mais ce qu'on voit surtout, c'est le cosmopolitisme du chef d'État. C'est-à-dire qu'il y a des lettres, des autographes, des envois d'Allende, de Willy Brandt, de Brezhnev, de Golda Meir, de Gorbatchev et les mémoires de Margaret Thatcher avec une dédicace absolument glaciale. Ça, nous sommes en France.
Nous sommes en France.
La deuxième chose, c'est les rapports avec les sciences humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun livre des maîtres penseurs du structuralisme ou assimilés des années 70-80. Je veux dire, zéro Lévi-Strauss, pas de Barthes, pas de Lacan, pas de Foucault, pas de Deleuze, pas d'Althusser, pas de Derrida, pas de Lyotard, etc. Probablement n'était-ce pas la tasse de thé, ou alors ils sont partis à la médiathèque municipale de Nevers, puisqu'il y a 20 000 volumes qui ont été par ailleurs déposés par François Mitterrand à Nevers. Et ça fait assez songer au Lamento de Régis Debray dans Loué soit nous Seigneur, où le futur médiologue raconte comment il s'esbignait à organiser des déjeuners à l'Élysée avec la fine fleur du Collège de France ou des hautes études, et comment est-ce que Mitterrand préférait, au fond, des déjeuners plus boulevardiers avec Françoise Sagan ou François-Marie Bagné.
Oui, mais enfin, en matière de sciences humaines, il s'y connaissait dans le domaine géographique, surtout quand il disposait des moyens de l'État pour survoler le pays. Nous sommes dans Le Promeneur du Champ de Mars, le film de Guédiguian, qui porte surtout sur la période finale, 86-88. François Mitterrand était malade. Il est interprété ici par Michel Bouquet, mais il ne manquait jamais l'occasion de s'échapper.
Ça lui était venu comme ça, un matin de janvier. On travaillait dans sa chambre à l'Élysée. Il s'était approché de la fenêtre et m'avait dit « Vous avez vu ce ciel ?» Une heure après, on survolait la Beauce. Il n'avait pas voulu me dire où il m'amenait. Ça ressemblait à un enlèvement. Le cœur battant, je m'étais laissé faire.
Antoine, regardez ça. Il faudrait relire tout Peggy. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. Ça ne vous dit rien? Évidemment que ça ne vous dit rien. Et là-bas quand même, vous voyez ce que c'est?
Oui, c'est la cathédrale de Chartres.
Bravo.
Vous avez vu la cathédrale, là?
Oui, merci, oui.
Ainsi, nous naviguons vers votre cathédrale. De loin en loin surnage un chapelet de meules. Un chapelet de meules. Comment dire mieux, l'enracinement mystique.
L'enracinement provincial dans une jeunesse française.
Oui, alors ça, on le voit, la francité mitterrandienne, on peut l'approcher, notamment en computant, en comptant le nombre de lots, c'est-à-dire quel est le quintet de tête, si vous voulez. Alors, bon, il y a quelqu'un qui est hors concours, c'est François Mitterrand, car le plus grand nombre d'ouvrages qui est mis en vente, ce sont les propres livres de François Mitterrand, il y en a 51. Qui vont être vendus, parfois 9 éditions par exemple de Politique 2, et même le brouillon du livre d'entretien avec Guy Claes, Ici et Maintenant, on s'aperçoit que Mitterrand rédige les questions que Claes lui posera.
Ah, c'est comme Monterland qui alors, a représenté 28 fois, oui, presque à égalité avec Chardonne, 29.
Si on prend le quintet de tête, allons-y rapidement, 29 Chardonne, donc en tête. Bourgeois des Charentes, 28 Monterland, 27 Aragon, 19 Giraudoux, 15 Barrès. Alors c'est assez intéressant parce que Barrès au fond est un peu le père de Monterland, le père littéraire et à certains égards d'Aragon. On est dans le terroir et ces écrivains à part Aragon, qui est très représenté, ne portait pas particulièrement à gauche.
Mais j'aime ce que j'aime, disait-il.
J'aime ce que j'aime et par exemple il aimait...
Et je ne vais pas passer au tribunal de la gauche, ajoutait-il. quant à mes choix littéraires.
Alors par exemple, dans l'hélicoptère, Michel Bouquet dans l'hélicoptère en surplomb de la cathédrale de Chartres évoque Peggy. Alors on voit dans la vente un grand nombre de livres de Peggy, souvent achetés dans les années 80-90. Et c'est assez intéressant parce que pour un auteur aussi franciscain que Peggy, qui vitupérait l'argent, comme Mitterrand note tous le cours d'achat, j'ai relevé que par exemple, notre jeunesse est achetée 20 000 francs en 1985. L'argent, justement, acheté 15 000 francs en 88. Un nouveau théologien, 13 000 francs en 91. Note sur Monsieur Bergson, 9 500 francs en 91. Donc on peut présumer que le traitement de président de François Mitterrand, en tout cas une bonne partie, allait vers l'achat d'ouvrages de Charles Peggy. C'est en tout cas ce que nous disent les cotes.
Heureusement, il y avait quelques cadeaux des uns ou des autres.
Vous pourriez me conseiller, je dois faire un cadeau.
Et quel genre de cadeau ?
C'est pour l'anniversaire du président. Je crois savoir que vous avez des livres qui l'intéressent.
Alors quel genre de prix, ça m'aidera.
Je ne sais pas, disons 2000 francs maximum.
Pour ce genre de prix, je peux vous proposer une édition originale brochée du journal de Léon Blois. Il y a 4 ans, le président l'avait feuilleté. Je m'en souviens parce qu'il avait cité une phrase de cet auteur.
Et c'est quoi cette phrase ?
Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints.
Ah, je crois qu'il s'agit d'un livre.
Oui, moi je ne suis pas très original.
C'est ce que nous allons voir. Ah oui, Léon Blois, oui. Je lisais ça quand j'étais jeune, mais ça a beaucoup vieilli. Mais je vous remercie, Antoine. Ce qui me gêne chez Léon Blois, c'est son désespoir. Comment est-ce qu'il disait déjà ? Ah, personne ne connaît plus ça.
Il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être des saints.
Ah bon ? Vous connaissez cette phrase ?
Léon Blois, oui, mais je lisais ça dans ma jeunesse, enfin quand même, est en vente le manuscrit prêt pour l'impression du fameux texte de Léon Blois sur l'incendie du bazar de la charité. Ce mot de bazar accolé à celui de charité, dans ce bazar des enseignes empruntées à des caboulots, à la truie qui file. Eh ben, c'est bien fait pour les aristocrates qui sont morts ou mortes dans ce pince-cul, disait Léon Blois, que continuait donc peut-être à apprécier François Mitterrand. Alors, les cadeaux. Ça, c'est pas très cher, 2 500 à 4 000 euros,
la lettre de Blois. Entre parenthèses, Peggy Blois, on voit bien la phase vituperante d'un catholicisme, le combat avec Blois, et la phase plus mystique avec Peggy. Mais on est encore dans le terreau catholique provincial. Alors les cadeaux, oui, puisque Mitterrand était l'archiviste de lui-même, en quelque sorte, il y a les livres que lui envoient les auteurs, mais on peut en parler peut-être plus tard, il y a les livres offerts par les amis. Et il y a un grand donateur, là comme ailleurs, en la personne de Pierre Berger. Nombre de ces ouvrages ont été offerts en toute amitié par le patron de la Maison Saint-Laurent.
Ainsi l'exercice du pouvoir de Léon Blum.
Par exemple, oui, il y a quelques Blum, ou Antoine Riboud, qui lui offre l'intégrale des Hommes de bonne volonté avec envoi de Jules Romain.
Et puis les petits bras, François-Marie Bagnier, un volume d'André Salmon... Joseph Franceschi, on ne parle pas de Roger Patrice Pelat qui accompagnait souvent dans ses promenades François Mitterrand chez les libraires.
Vous dire, Jean Lebrun, que vous mettez en rapport le cours en francs des ouvrages de Peggy achetés sur les quais et la présence de Monsieur Pelat. Parce qu'on dit que Mitterrand n'avait jamais d'argent sur lui, alors, je ne sais pas si c'est vrai.
On dit aussi dans le catalogue, mais qui est peut-être traversé par une admiration sans borne, qu'il alignait les billets les uns à côté des autres sur la table.
Oui, sans doute, mais les billets étaient là pour s'en défaire et pour les transformer en culture. Comme m'avait dit une fois Alberto Moravia, pour gagner de l'argent, il faut une compétence, mais pour le dépenser, il faut une culture. Et François Mitterrand n'en manquait pas.
Je ne sais pas du tout comment faire la liaison, vous allez m'aider, la Marc Lambron. Je voulais parler de votre dernier livre quand même. À la réunion des musées nationaux, va avoir lieu une exposition sur Michael Jackson et vous lui avez consacré un petit ouvrage. Les contemporains, c'est une grande leçon de l'histoire, ne sont pas contemporains les uns avec les autres. Michael Jackson et Mitterrand ?
Oui et non, vous pouvez faire une sorte de charade. Mitterrand rencontre Reagan, élu en 82. Le grand album, le grand succès de Michael Jackson, c'est Thriller, fin 82. D'ailleurs, Reagan a été reçu déguisé en amiral de la flotte soviétique par Reagan. Donc,
Michael Jackson était habillé en maréchal soviétique.
Donc, c'est un son d'époque Mitterrand, si vous voulez, Michael Jackson.
On va se rétablir dans un instant, après l'album Thriller de 1983, justement. On va revenir à notre sujet, la bibliothèque de François Mitterrand.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Marc Lambron, nous parlons de la bibliothèque de François Mitterrand qui est en vente chez Piazza cet après-midi et demain après-midi. Et nous voulions marquer que nous étions chez Bran, pour ne pas dire câblé. Les auditeurs qui regardaient les émissions de Yves Mourouzi se souviendront des mots que le président avait employés à cette époque. Vous collectionnez, vous, dites Michael Jackson ?
Non, je ne collectionne pas. De toute façon, Michael Jackson, ce sont des CD ou des téléchargements. Donc, j'ai pas de fétiche, j'ai pas de relique jacksonienne. Non.
Et les autographes?
Les autographes.
Vous en collectionnez, vous?
Non, pas vraiment. Il y a des envois sur quelques livres. Mais François Mitterrand, oui.
Un bibliophile, souvent, oui. Collectionne aussi les autographes.
Alors, il y a des autographes de François Mitterrand lui-même. Par exemple, il y a un texte assez intéressant, semble-t-il, rédigé pendant une séance à l'Assemblée nationale, qui est un portrait de Kissinger. Et qui apparemment n'a jamais été publié. Donc, il y a cette esquisse sur 3 ou 4 pages qui est tout un texte assez intéressant et semble-t-il inédit. Mais on va en puiser plus loin dans l'histoire. Il y a un magnifique autographe de François Ier. Donc,
qui concerne Jarnac, la ville natale.
Et qui concerne Jarnac. Donc là, l'origine, l'histoire, l'enracinement. Autographe de Clémenceau. Et puis, quand même, le côté sang de gauche, puisqu'on a des lettres de Proudhon, de Jaurès, de Salingros, de Madès France. Et puis, les meilleurs ennemis. Il y a ainsi une lettre du général de Gaulle, adressée à Francisque Gay.
Qui était un dirigeant du mouvement républicain populaire.
Voilà. Il y a 3 lots Léon Blum, ça, ce sont les amis, vous en avez parlé. Et il y a l'envoi dédicacé de Démocratie française de Valéry Giscard d'Estaing, donc qui était dans cette bibliothèque, qui n'est pas partie à Nevers, vous voyez. Et aussi d'ailleurs une lettre de condoléances du président Giscard d'Estaing à la mort de Georges Dayan, qui était l'ami, le jumeau presque historique de François Mitterrand.
Un bibliophile se préoccupe beaucoup de reliures. Jean Dutour, l'ami de Daniel et de François, ainsi se présente-t-il, dit « La reliure, c'est un acte de confiance, elle transforme une brochure ou un livre en un objet qu'on aime et qu'on garde. » Daniel, qui, depuis le début des années 60, exerçait presque officiellement la profession, on peut employer le mot, de relieuse.
J'avais aménagé un atelier de reliure quand nous habitions rue Guynemer. Dans 2 chambres au 6e, je m'étais installée là. Et puis je me suis rendu compte que j'ai travaillé de nombreuses années seule. Et c'est un métier qui est très prenant, mais parce qu'il lui faut une grande unité d'esprit et de temps aussi. Et je finissais dans ce 6e étage par n'avoir que la radio comme pour m'accompagner et accompagner ma solitude. Et travailler seule des journées entières, c'était pas tellement bon pour le moral. Ouais.
Ouais. Puis il y a de quoi perdre le moral quand on voit les commandes que passe son époux à Daniel Mitterrand.
Bah, ça, c'est très étrange. Alors, quand on regarde donc le catalogue, on s'aperçoit que François Mitterrand donnait systématiquement à relier à son épouse des auteurs de la droite extrême ou affiliés.
Son épouse qui avait participé de très près à la résistance.
Très près à la résistance. D'ailleurs, pour moi, la dédicace, c'est peut-être la plus émouvante, entre parenthèses, c'est celle de Guylain de Bénouville, qui envoie son livre Le Sacrifice du Matin, et il évoque dans ses dédicaces Pascal Copeau, Bertie Albrecht et la jeune Danielle Gouze. Ça, c'est pour la résistance.
D'abord, je te reconnus parce que tu avais un grand chapeau qui ombrait ton regard. Et il raconte la suite des rendez-vous avec le couple.
Oui. Dans la clandestinité. Mais là, les auteurs que Madame Mitterrand reliait, c'est Robatet, Drieux, Brasillac, Chardonne, Abelio, Jouandeau, Marcel Aimé. Alors, pourquoi peut-être que Mitterrand n'avait pas trop envie que circule dans l'information qu'il avait ses livres chez lui, et qu'au fond, la meilleure façon de les garder discrets, c'est de les faire relier par son épouse, à moins qu'il ait voulu, la convertir, en tout cas l'exposer à certains écrits qui n'étaient pas du genre de la famille Gouze, instituteur franc-maçon. En tout cas, il y a ce trait. Est-ce que c'est un syndrome conjugal? Je ne sais pas.
Les reliures de Daniel sont belles.
Très belles. Très belle et
inventive, notamment quand il s'agit de relier les œuvres relatives au Parti socialiste.
Ah bah, je recommande la reliure de La Rose et le Poing avec une très belle rose sur fond rouge, qui sera sans doute un des lots remarqués de cette vente. Au fond, Mitterrand, d'une certaine manière, ne trichait pas. C'est-à-dire que comme il embrassait les différentes familles spirituelles de la France, c'est un peu ce qu'on voit dans cette bibliothèque, il y a aussi les collabos, ça, il faut le dire. Et par exemple, Alphonse de Chateaubriand, Philippe Henriot, Maurras lui-même, sont présents dans cette bibliothèque. Maître Isorni aussi, qui fut l'avocat de Philippe Pétain, et même un autographe de Pétain, qui est daté de 1948, donc au moment où il est prisonnier à l'Île-Dieu, et en 90, on voit encore Mitterrand, deux ans après sa réélection, qui achète pour, je crois, 13 500 francs, un exemplaire de tête des décombres de Robatet.
Il faut regarder en effet les dates d'achat, et témoignent de capacités financières grandissantes, peut-être aussi d'une évolution des goûts. Et puis dans le système de paravent qu'il s'était organisé, il ne faut pas oublier qu'il avait extrait de sa première bibliothèque des textes qu'il lisait en compagnie d'Anne Pinjot. Anne Pinjot, c'était Pascal, notamment. Voici comment elle parlait de ses lectures communes à Jean-Noël Jeannet, à Voynu, France Culture, il y a un an.
Pascal?
Oui, tout le temps. Il en savait par cœur des morceaux entiers. Dans les dernières lettres, il en parle encore, de Pascal.
Chateaubriand aussi?
Oui.
Et beaucoup Stendhal?
Énormément. Énormément. Je pensais que ça a dû compter. Je viens de relire Lucien Leven, un des premiers qui m'a envoyé. J'avais tout oublié. Je pouvais même pas comprendre. Il faut lire plus tard.
Il y a un personnage qu'il évoque souvent avec un intérêt spécifique, c'est François Mauriac,
oui,
qui avait été assez sévère à son égard. Et c'est dans le journal, ça, à un moment donné, il découpe pour vous l'extrait d'un article de Mauriac où il est beaucoup plus indulgent.
Oui.
Tiens, il évolue,
oui,
dit-il. Alors, oui. Ça n'empêche pas de citer ce poème de Mauriac. La chair encore endormie, je pars au petit jour sombre, sans pouvoir sortir de l'ombre que ton corps fait sur ma vie.
Vous n'attendiez peut-être pas de devoir parler des choix poétiques de François Mitterrand à partir de ce poème de François Mauriac, Marc Lambron.
Oui, alors le rapport avec Mauriac d'ailleurs est assez contrasté, parce que sous la quatrième, les rapports sont très bons. Il courtise assez Mauriac, et puis là, sous la cinquième, Mauriac gaulliste a eu des coups de patte pour Mitterrand. Et d'ailleurs, il y a assez peu c'est une des surprises du catalogue, il y a assez peu de livres de Mauriac dans la collection. Alors ça ouvre en effet la question des contemporains. Mauriac a été, il est mort en 70, donc contemporain de Mitterrand.
Alors les contemporains.
Mais il y en a d'autres.
Les grands écrivains qui montent.
Les écrivains de ce temps, ouais. Oui. Alors c'est assez Gallimard. Bon, il y a 8 lots Le Clésio, 8 lots Sagan, 7 lots Solaire, 6 lots Tournier, 5 lots Robe-Grillet. Monsieur d'Ormesson, qui le voyait beaucoup, enfin, il n'y en a que quatre. Il y a trois Duras. C'est assez peu pour la...
Il y a trois Echnoz.
Il y a trois Echnoz et il y a trois Dutour. Vous voyez, donc Duras égale Dutour, en quelque
mais
sorte.
Vous ne croyez pas qu'on a assez cité Jean Dutour depuis le début de l'émission?
Deux fois, non. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est quand même les grâces qui sont faites au président. Par exemple, Philippe Soler, Jean d'Ormesson, Pascal Quignard envoient des exemplaires de tête, c'est-à-dire prélevés sur le tirage spécial Gallimard d'une cinquantaine d'exemplaires pour chaque livre. Il y a quand même des amis très obligeants. Alors là, les dédicaces sont parfois révélatrices ou assassines. Yves Navarre, par exemple, j'ai vécu et je vis grâce à vous. C'est beaucoup. François-Marie Bagnier à François Mitterrand, grâce à qui j'ai écrit ce livre. Et il y a toujours grâce. Hein. Et Françoise Sagan, 1981, pendant l'été, donc à trois mois de l'élection, je lis à François Mitterrand, grâce à qui cet été à Paris est enfin la plus belle saison dans la plus libre des cités.
Oui, mais comme vous êtes académicien, vous évitez de citer votre confrère Pierre Moineau, à mon président, mon protecteur, mon grand maître, et s'il le veut bien, mon parrain.
Oui, voilà une dédicace tout à fait sentie, qui n'exagère aucunement.
Mais alors, du coup, quand on lit Aragon, Monsieur le Président et chers camarades, oui. René Char, à Monsieur le Président, avec mes fidèles sentiments, ou les dédicaces de José Cabanis, là, on voit des gens qui ont de la retenue.
Oui, là, on voit qu'ils ont de la retenue. Puis surtout, ce qui est attristant, c'est que... alors, peut-être sont-ils ailleurs. Mais en tout cas, on ne voit aucun dans cette bibliothèque des essais politiques consignés. Jack Lang, Jean-Pierre Chevènement, Pierre Jox, Jacques Delors, ils ne sont ni présents ni reliés.
Ils n'ont pas été gardés.
Ils sont sans doute ailleurs, dans une autre, un autre tiroir, un autre placard.
Ou bien à Nevers.
Ou à Nevers, probablement. Et puis les écrivains proches, même, qui parfois ont servi à l'Élysée. Paul Guimard, un seul exemplaire.
Oui, mais c'est Mitterrand qui l'achète.
Mais il n'y a pas de Bernard Pinault, il n'y a pas de Claude Manseron, il n'y a pas de François-Régis Bastide, ni
et
même...
Et puis citer votre confrère aussi.
Ni même de Régis Debray ou d'Éric Orsenna. Voilà.
Amis des écrivains, amis des libraires.
Amis des écrivains, amis des libraires, oui, ça, sans doute, c'est le promeneur du Champ de Mars, c'est l'homme de la librairie Gallimard, boulevard Raspail, oui.
Alors, cette vente est organisée par Piazza. Racontez-moi les liens de Piazza avec une famille socialiste.
Je crois que Piazza est une maison qui associe Laurent Fabius et quelques-uns de ses amis. Donc,
si on a peu de moyens,
le lieu est bien situé.
Si on a peu de moyens et qu'on va rue du Faubourg Saint-Honoré, on peut avoir un René Coty pour 50 euros.
Oui, alors
c'est l'estimation.
L'estimation, je crois, est entre 50 et 80 euros. Alors c'est très étrange. Donc René Coty est président de la République, François Mitterrand est ministre. Et pendant le Conseil des ministres, René Coty étrangement soustrait par mégarde une enveloppe qui contient des timbres. Et il écrit pour restituer à Mitterrand. Alors que c'est des timbres de collection, est-ce que ce
peut-être
sont des
François Mitterrand faisait-il aussi collection de timbres.
C'est possible.
Et découvrira-t-on un trésor caché de plus derrière un paravent supplémentaire. Merci à vous Marc Lombron. Est-ce que j'ai dit que vous avez publié un livre sur Michael Jackson en contrepoint de cette émission préparée par Frédéric Martin avec à la technique Pierre Lemierre avec à la réalisation Lise Combe.